Bonjour à tous et à toutes. C'est toujours un moment béni, un moment merveilleux pour nous de nous rassembler autour de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui est notre Dieu, lui qui nous aime tant. Nous allons ouvrir nos Bibles, prendre nos Bibles et ouvrir dans le premier livre de la Bible, dans Genèse, au chapitre 18. Genèse, chapitre 18, et nous allons lire à partir du verset 16 jusqu'au verset 33. Genèse, chapitre 18, du verset 16 à 33. Nous lisons la parole de Dieu. Le verset 16. Ces hommes s'élevèrent pour partir, et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, « Cacherai-je à Abraham ce que je veux faire ? » Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre, car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorre s'est accru, et le péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre, et je verrai s'ils ont agi entièrement selon les bruits venus jusqu'à moi, et si cela n'est pas, je le saurai. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham s'éteint encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, « Feras-tu aussi périr les justes avec les méchants ? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville ? Le feras-tu périr aussi? Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant, loin de toi, cette manière d'agir, loin de toi, cette manière d'agir, loin de toi, celui qui juge toute la terre, n'exercera-t-il pas la justice? Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Abraham reprit et dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. Peut-être des 50 justes en manquera-t-il 5. Pour 5, détruiras-tu toute la ville? Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point, si je trouve 45 justes. Abraham continua de lui parler et dit, peut-être s'y trouvera-t-il 40 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien à cause de ces 40. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point, et je parlerai. Peut-être s'y trouvera-t-il 30 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien si je trouve 30 justes. Le verset 31, Abraham dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur. Peut-être s'y trouvera-t-il 20 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 20. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point et je ne parlerai plus que 7 fois. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham. Et Abraham se retourna dans sa demeure. Prions l'Éternel. Éternel, merci pour ces moments bénis que tu nous as accordés pour que nous puissions méditer ta parole. permet que nous puissions recevoir cette parole, non comme venant d'un homme, mais comme venant de toi. Et que cette parole puisse demeurer en nous. Merci pour cela, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Oui, nous avons lu ce récit, cette histoire que nous connaissons très bien. Et le titre de notre message ce matin, la prière d'Abraham en faveur des habitants de Sodome. La prière d'Abraham en faveur des habitants de Sodome. Comme vous le savez, frères et sœurs, Sodome et Gomorre sont deux villes tristement célèbres pour être l'objet de la colère de Dieu dans l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament cite ces villes comme exemple de mauvais comportement que le peuple de Dieu doit éviter. Parce que la Bible dit, les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et Gomorre du soufre et du feu. Voilà ce qui se passait dans ces deux villes-là. Pour les païens de l'époque, ceux qui ne croyaient pas en Dieu, à cette époque, la destruction de Sodome et Gomorre était une catastrophe naturelle pour eux. Pour ceux qui ne connaissaient pas le Seigneur, c'était une catastrophe naturelle. Les cieux qui tombent, donc le feu qui tombe du ciel, qui détruit tout. Et si cela s'est produit de nos jours, aujourd'hui là, nous verrons des images dans les médias, ainsi que des explications des experts, des spécialistes, des géologues et tout concernant tout ça. Tous ces gens-là, chacun viendra avec des explications sur la façon dont le feu tombait du ciel. Et aucun des spécialistes, aucun d'expert, aucun des géologues dira que cet événement est le jugement d'un Dieu juste qui a manifesté sa justice. Personne ne le dira si ça se produit aujourd'hui. Ils vont trouver d'autres explications, à droite, à gauche. Et dans ce passage que nous venons de lire, nous remarquons une chose, ce passage nous rapporte un vrai dialogue. Un vrai dialogue. Dieu partage avec Abraham ce qu'il a sur le cœur. Et Abraham, à son tour, partage avec Dieu ce qu'il a sur son cœur. Et chacun de deux écoute l'autre. C'est merveilleux. Chacun de deux écoute l'autre. Et pour cela, frères et sœurs, nous allons diviser ce texte, ce passage que nous venons de lire. Nous allons le diviser en deux sections, ou en deux parties. La première section qui montre l'initiative de Dieu. Et cette section va du verset 16 jusqu'au verset 22. Et la deuxième section ou la deuxième partie qui concerne l'intercession ou la prière d'Abraham. Et cette section va du verset 23 jusqu'au verset 33. Alors, la première partie, l'initiative de Dieu. Vous savez, si nous lisons au début du chapitre 18, tout juste à partir du premier verset, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit ceci au début du chapitre 18. Abraham était assis à la porte de sa tente dans la chaleur du jour quand il leva les yeux et regarda. Et quand il a regardé, il a vu quoi? Ou il a vu qui? Voici, trois hommes étaient debout près de lui. Il courut au-devant d'eux et se prosterna en terre. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Et il a vu trois hommes. Et parmi ces trois hommes, la Bible nous dit qui étaient ces trois hommes. Parmi ces trois hommes, si nous lisons au chapitre 19, Genèse chapitre 19 et le verset 1, ce passage, ce verset nous donne un éclaircissement. Genèse chapitre 19, le verset 1 dit, deux de ces trois hommes étaient des anges. Étaient des anges. Et le chapitre 19, verset 1 dit, les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir. Et Lot était assis à la porte de Sodome. Ils étaient trois. Deux étaient des anges. Et le troisième homme, c'était le Seigneur, c'était l'Éternel. Le troisième homme, c'était l'Éternel. Et Abraham avait compris cela. Abraham avait compris cela parce que la parole de Dieu nous dit, il se prosterna jusqu'à terre. Geste d'adoration réservé uniquement à Dieu. C'est un geste d'adoration qui était réservé uniquement à Dieu. On se prosterne que devant Dieu. Et la Bible dit que Abraham resta seul en présence de l'Éternel. Voici donc, deux hommes sur les trois, deux étaient des anges, et la troisième personne, c'était le Seigneur lui-même, qui était en face de Abraham. Frères et sœurs, Dieu n'avait pas besoin de descendre sur terre pour voir quoi que ce soit. Dieu n'avait pas besoin d'envoyer les anges à Sodome pour une mission de reconnaissance. Allez faire une enquête là-bas. Allez voir. Après, revenez me dire ou me donner le rapport. Non, Dieu n'avait pas besoin de ça. Pourquoi? Parce que Dieu voit toutes choses. Dieu sait toutes choses. Et la Bible dit que Dieu est omniscient. De son trône, il voit tout. Il entend tout. Il sait tout. Mais si Dieu est descendu pour voir, comme le dit la Bible, comme nous venons de le lire, si Dieu est descendu pour voir, c'est pour démontrer une chose à Abraham. C'est pour démontrer à Abraham sa bonté, sa miséricorde, sa patience et surtout sa justice. Voilà pourquoi il est descendu. Voilà pourquoi il est descendu. Et le Seigneur est descendu pour voir. Cette phrase nous rappelle aussi quelque chose. Cela nous rappelle quoi? Cela nous rappelle aussi l'histoire de la dispersion des peuples de la tour de Babel. Lorsque l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour qui est baptisée le Fils des hommes. Vous verrez ça dans Genèse chapitre 11. Là aussi, le Seigneur était descendu pour voir. Alors, au verset 17 du chapitre 18 que nous venons de lire, Dieu prend l'initiative. C'est pour cela que cette partie, nous l'avons intitulée la première partie, l'initiative de Dieu. Dieu prend l'initiative et il se pose une question. Dieu se pose cette question-là. Quelle est cette question? Au verset 17, Dieu dit, « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ?» C'est Dieu qui se pose cette question. Est-ce que je vais cacher mes intentions à Abraham? Et, frères et sœurs, est-ce que Dieu avait besoin de la permission d'Abraham pour accomplir sa volonté? Certainement pas. Certainement pas. Mais l'Éternel cherche seulement à informer Abraham de ce qu'il veut faire. L'Éternel cherche à informer Abraham ce qu'il veut faire. Pourquoi? Parce que Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs,
les promesses. Amos, chapitre 3, verset 7. C'est la parole de Dieu qui le dit. Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Voilà pourquoi Dieu a voulu informer Abraham. Cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? Et à partir du verset 18, Dieu donne la raison pour laquelle il partage ses intentions avec Abraham. Il donne la raison pour laquelle il veut informer ou il informe Abraham de ce qu'il veut faire. Et la première raison, frères et sœurs, la première raison se rapporte à la promesse de Dieu à Abraham. Et nous voyons cette promesse dans Genèse, chapitre 12, le verset 2 à 3. Ça, c'est la première raison. Quelle est cette promesse? Je ferai de toi une grande nation. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. La première raison. Parce que Abraham deviendra une grande nation et en lui, toutes les nations de la terre seront bénies. Voilà la première raison que le Seigneur avance comme raison. Nous le voyons, il le répète au verset 18, si nous pouvons relire le verset 18, Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Voilà la première raison. La deuxième raison que Dieu avance, nous le voyons au verset 19 du chapitre 18. Qu'est-ce que Dieu dit au verset 19? Il dit, car je l'ai choisi. Je l'ai choisi. Il a choisi qui? Il a choisi Abraham. Et dans la version Darby, j'essaie de voir dans la version Darby, la version Darby écrit ceci, « Car je le connais. » Je le connais. Dieu connaît Abraham. Il le connaît comment? Dieu reconnaît Abraham comme son ami, comme un ami. C'est la parole de Dieu qui le dit. Si nous lisons dans Jacques chapitre 2, le verset 23, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Jacques chapitre 2, le verset 23, la parole de Dieu nous dit ceci, « Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé comment? Il fut appelé ami de Dieu. » Dieu le connaît comme ami. Voilà la deuxième raison que l'Éternel avance. Parce que Dieu n'a pas de secret pour ses amis. Si déjà nous, humains, on a nos amis, les jeunes souvent disent, oh, c'est mon pote. Oui, c'est ton pote, oui. Et tu lui dis tout. Tu caches rien. Même nous, on a des amis. Celui-là, je ne lui cache rien. Et Dieu, qui est le Tout-Puissant, va-t-il cacher ses secrets ou son secret à son ami? Non, Dieu dit tout. Voilà pourquoi Dieu a cherché à informer Abraham. Et dans l'évangile de Jean, au chapitre 15, le verset 15, Jésus-Christ lui-même nous appelle ses amis. Jésus-Christ, le Seigneur, nous appelle, nous les chrétiens. Il nous appelle, il dit que nous sommes ses amis. Lisons ce verset dans Jean chapitre 15, le verset 15. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? La parole de Dieu dit ceci. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais moi, je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Voilà pourquoi Dieu a dit, cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? Premièrement, c'était pour la promesse qu'il avait donnée à Abraham. Et deuxièmement, parce qu'Abraham, c'est son ami. Il lui dit tout et il ne cache rien. Et il y a encore une troisième raison pour laquelle Dieu révèle son plan à Abraham. Nous le voyons toujours au verset 19. La suite du verset 19, il dit quoi ? Afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Première raison, c'était les promesses. Deuxième raison, c'est son ami. Et troisième raison aussi, non. Parce que pour que Dieu puisse accomplir en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui avait faites. Parce que Dieu désire que son peuple soit un peuple qui pratique la droiture et la justice. La droiture et la justice. Et Abraham avait besoin de savoir ce qui va arriver à Sodome et Gomorre. Car il devrait enseigner à ses enfants comment agir d'une manière droite et juste. Comment agir d'une manière droite et juste. C'est pour cela, frères et sœurs, faisons attention. La Bible insiste sur la responsabilité des parents, nous qui sommes parents, la Bible insiste sur la responsabilité des parents d'enseigner à leurs enfants comment vivre d'une manière à plaire à Dieu. Parce que Dieu avait insisté à Abraham de faire cela. C'est pour cela qu'il lui a révélé son secret, qu'il va détruire Sodome et Gomorre. Et aujourd'hui, nous aussi, nous avons cette responsabilité, chacun d'entre nous ici, qui sommes parents. Nous avons cette responsabilité d'enseigner la parole de Dieu à nos enfants. Comment ils doivent vivre d'une manière droite et juste. Le livre de Deutéronome, au chapitre 4, le verset 9, dit ceci. Deutéronome, chapitre 4, verset 9, dit ceci. Deutéronome 4, 9. Prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-le à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Voilà la recommandation que la Bible nous donne. Et c'est très important, frères et sœurs. Prends garde d'abord à toi-même, à moi-même, et que je veille attentivement à mon âme. Pas seulement un jour, mais tous les jours de ma vie. Tous les jours de notre vie. De peur. Le risque, c'est quoi? De peur que tu n'oublies les choses que tu as vues. Que nous oublions les choses que nous avons vues. Et que ces choses sortent de nos cœurs, de notre cœur. Ce que tu connais, que cela puisse sortir de ton cœur, les oublier. Mais le Seigneur veut que tu puisses l'enseigner, les enseigner tout ça, non seulement à tes enfants, mais à tes petits-enfants aussi. C'est ça la recommandation de la parole de Dieu. Voilà pourquoi Dieu n'a pas caché ses intentions à Abraham pour ces trois raisons. La deuxième partie de ce passage, ou la deuxième section de ce texte, c'est l'intercession d'Abraham. On peut appeler ça la prière d'Abraham, l'intercession, la prière d'intercession d'Abraham. Abraham prie pour Sodome et Gomorre. Il intercède en leur faveur. implorant la miséricorde de Dieu. C'est une bonne chose. Son attitude n'est pas celle de la haine ou de l'indifférence envers le méchant, envers le pécheur de Sodome et Gomorre. Non. Il n'a pas cette attitude-là. Il n'a pas une attitude de haine. Ah, ça, non. Celui-là, c'est un pécheur. Non. Non. Abraham n'a pas eu cette attitude-là. Au contraire, il a prié pour ses pécheurs, pour ses méchants. Abraham, mais parce qu'il y avait son neveu qui habitait à Sodome, Abraham pouvait simplement prier en ces termes. Seigneur, tu vas détruire Sodome. Bon, c'est bien, mais s'il te plaît, Seigneur, mon Dieu, fais sortir d'abord mon neveu, Lot, et sa famille. Après, tu pourras détruire la ville. Abraham n'a pas prié dans ce sens-là. Abraham n'a pas prié dans ce sens-là. Il n'a pas fait cela, Abraham. Parce qu'il avait à cœur de prier, d'intervenir, d'intercéder pour les gens qui étaient là-bas, ces méchants, les pauvres, donc les pécheurs. Il n'avait pas la haine ou l'indifférence. Comme certains aujourd'hui peuvent être indifférents avec certaines personnes de mauvaise vie. Abraham n'était pas comme ça. Le cœur d'Abraham était plein de tristesse et de compassion. Plein de tristesse et de compassion pour les habitants de Sodome et Gomorre. Et avant cela, Dieu venait d'exhorter Abraham d'élever sa famille dans la crainte de l'Éternel afin de pratiquer la droiture et la justice. Et maintenant, Abraham, qu'est-ce qu'il fait? Il demande à Dieu d'appliquer la justice. Seigneur, tu as dit, moi, oui, que je puisse enseigner à mes descendants, à mes enfants, la droiture et la justice. C'est bien, Seigneur. Mais maintenant, Seigneur, moi, je te demande, applique ta justice pour Sodome et Gomorre. C'est tout ce que Abraham demande à Dieu. Il demande à Dieu d'appliquer sa justice. Il dit au verset 23, « Feras-tu aussi périr le juste avec le méchant ?» Voilà. « Feras-tu périr aussi le juste avec le méchant ?» Et au verset 25, qu'est-ce qu'Abraham dit ? Abraham dit, « Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice ?» Surtout, ce sont les enfants qui nous prennent au mot. « Ah, papa, mais tu avais dit ça, mais oui. » Ah oui, mais bon, on est le 20. Tu m'avais dit le 20, mais on est le 20. Eh bien, ça voudrait dire, papa, fais ce que tu m'avais dit. C'est en quelque sorte ce qu'Abraham dit à Dieu. Voilà. Il demande à Dieu d'appliquer la justice. Et dans sa prière, dans son intercession, Abraham avait qu'un seul argument, pas deux. Pas toi, un seul argument à avancer dans sa prière devant Dieu. C'est quoi cet argument? La justice de Dieu. C'est l'unique argument que Abraham avait dans sa prière d'intercession envers Dieu. Ta justice. Pas autre chose. Oui, dans sa justice, Dieu ne pouvait pas traiter les justes et les méchants de la même manière. Jamais. Parce que Dieu est juste. Puisqu'il est Dieu juste et miséricordieux, Abraham pouvait prier en faveur des habitants de cette ville. Au nom de quelques justes qui se trouvaient dans cette ville. C'est bien quand nous prions le Seigneur dans nos prières, qu'on puisse s'appuyer sur quelque chose qui est sur la parole de Dieu. Ça, tu vois, c'est ce que Abraham fait. Il a dit, mais oui, tu as dit quoi? Tu as dit droiture, justice, alors applique cela maintenant, Seigneur. C'est tout ce que je demande. Un seul argument, la justice de Dieu. Et sa prière quand nous regardons l'intercession d'Abraham, sa prière est à la fois humble, mais est persévérante. D'abord, sa prière commence par la connaissance de la personne de Dieu. C'est merveilleux. Allez relire ce texte à la maison, tranquillement. Moi, ça m'a beaucoup fait réfléchir. Ça m'a dit, mais Marcel, améliore tes prières. Comment tu pries? Abraham a commencé comment? Abraham commence sa prière par la connaissance de la personne de Dieu, c'est-à-dire la nature même de Dieu. Abraham fait appel à Dieu sur base de ce qu'il est, sur base de sa nature. Il fait appel à Dieu dans sa prière pour ce que Dieu est. Et qu'est-ce que Dieu est? C'est un Dieu juste. Il ne va pas gauche à droite, il dit, mais tu es un Dieu juste. Feras-tu périr le juste et le méchant? C'est pour cela que nos prières doivent s'appuyer, frères et sœurs, sur la parole de Dieu et non sur autre chose. Abraham ne questionne pas Dieu comme on pouvait le croire. Il ne questionne pas du tout Dieu. Il lui demande seulement d'agir en conformité avec ce qu'il est. C'est tout ce qu'Abraham demande à Dieu. Que Dieu puisse agir en conformité avec ce qu'il est. Et ce qu'il est, c'est quoi? C'est le Dieu juste. C'est le Dieu juste. Il ne cherche pas autre chose. Oui. Si Dieu se révélait le juge de toute la terre, il doit agir avec justice. Sinon, Dieu n'est plus lui-même. Sinon, Dieu n'est plus lui-même. Donc, il doit agir selon ce qu'il est, en conformité de ce qu'il est. Sinon, il n'est plus lui-même. Comment un Dieu juste peut-il détruire? Et dans son intercession, on a vu, il a commencé par 50 ans, mais il a fini par 10. Comment un Dieu juste peut-il détruire une ville qui compte 50 habitants justes? Demande Abraham. Il dit, oui, mais Seigneur, mais tu es juste. Oui, c'est vrai. Mais il y a 50 justes dans cette ville. Comment tu peux la détruire? Comment tu peux la détruire? Oui, Abraham craint que Dieu puisse détruire les justes avec les méchants. En d'autres termes, entre parenthèses, on pouvait dire ceci que Abraham dit, mais Seigneur, mais oui, si tu détruis les justes Allah et les méchants, les païens remettront en question ta justice. Les païens, mais qu'est-ce qu'ils vont dire? Ouais, oh oui, mais vous priez un Dieu qui dit qu'il est juste, mais regardez là-bas, il a détruit les justes et les méchants. Est-ce qu'il est juste? Donc, en d'autres termes, c'est ça qui était dans le raisonnement d'Abraham. C'est pour cela, frères et sœurs, comme on l'a dit, lorsque nous prions, nous devons faire appel à Dieu sur la base de sa personne, ce qu'il est, tel que révélé dans sa parole. Pas autre chose. Ne va pas droite à gauche. Ta prière doit être fondée sur la personne de notre Dieu, ce qu'il est. Et nous connaissons tous les attributs de Dieu. Il est bon, il est miséricordieux, il est juste. Et ainsi de suite, on peut citer tous les attributs de Dieu. Et dans nos prières, nous pouvons nous appuyer sur l'un des attributs de Dieu. Quand tu pries, quand je prie, quelle que soit ta situation, quelle que soit ta prière, appuie-toi sur l'un des attributs de Dieu. Parce que Dieu, c'est ce qu'il est. C'est ce que Abraham a fait. Oui, d'abord, il commence sa prière par la connaissance de la personne de Dieu. Ensuite, Abraham vient humblement devant Dieu avec beaucoup de crainte, beaucoup de respect et d'humilité. Voilà comment il s'est approché de Dieu. Avec beaucoup de crainte, de respect et d'humilité. Il ne donne pas des ordres au Seigneur. Non, il ne donne pas des ordres au Seigneur. Abraham vient à Dieu tel qu'il est, mais sachant à qui il s'adresse. Attention, il vient humblement auprès de l'Éternel, mais il sait à qui il s'adresse. Et cette phrase, on l'entend souvent, hein? Un petit gamin qui s'adresse à un adulte. Hey, est-ce que tu sais à qui tu t'adresses, toi? Et dans les mots, on dit, tu me connais, toi? Que tu puisses me parler comme ça, tu me connais? On est des mêmes niveaux? On a la même situation? C'est ça qu'on se dit. C'est ça que le monde dit. Mais Abraham, lui, quand il s'est approché de Dieu, il sait qui est Dieu. Il ne s'approche pas n'importe comment. Il s'approche humblement, avec respect, avec humilité. Pourquoi? Parce que Dieu est souverain et maître de l'univers. Il est souverain, il fait ce qu'il veut, hein, quand il veut, comme il veut, quand il veut. Et Abraham le savait. Ouais, c'est l'attitude que nous devons tous avoir en nous approchant de Dieu, frères et sœurs. Dieu, frères et sœurs, n'oublions pas une chose, que Dieu ne nous doit rien, rien du tout. Dieu n'est pas redevable, non, il n'est pas redevable. Dieu ne nous doit rien. Et tout ce qu'il nous donne, frères et sœurs, c'est parce qu'il est bon. C'est parce qu'il est bon et non parce que nous le méritons. Non. C'est pour cela que nous devons avoir une bonne attitude quand on s'approche de Dieu. Abraham se montre humble. Il se montre humble devant l'Éternel. Voici ce qu'il dit. Voici ce qu'il dit dans la parole de Dieu. Quand il s'approche de Dieu, voici ce qu'Abraham dit. Regardez le verset 27. Le verset 27, Abraham dit, « Voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. » Il dit, « Mais donc, j'ai osé. » Le verset 30, qu'est-ce qu'Abraham dit? Abraham dit, « Que le Seigneur ne s'irrite point et je parlerai. » En d'autres termes, « S'il te plaît, mon Dieu, mon roi, ne te fâche pas. Laisse-moi parler, s'il te plaît. » Le verset 31, Abraham dit, « Voici, j'ai osé parler au Seigneur. J'ai osé parler au Seigneur. » Et enfin, le verset 32, Abraham dit, « Que le Seigneur ne s'irrite point, et je ne parlerai plus que cette fois. » Voilà l'attitude de David quand il s'est approché de Dieu. C'est cette attitude-là, cette attitude que nous devons avoir quand on s'approche de ce Dieu-là qui est le Tout-Puissant, qui est souverain, le maître de l'univers. Frères et sœurs, rien n'indique qu'Abraham s'est considéré comme meilleur par rapport aux habitants de Sodome. Il a prié pour eux en ayant conscience de ses faiblesses. Il ne s'est pas dit que moi, je suis meilleur que ceux-là de Sodome et Gomorrhe, sont des pécheurs. C'est pour cela que j'ose intercéder pour eux. Non, il dit que je suis rien. Il dit que je suis cendre, poudre et cendre. Il était conscient de ses faiblesses. L'humilité. C'est de cette manière que Abraham s'est approché de Dieu. Oui, d'abord, sa prière commence par la connaissance de la personne de Dieu. Ensuite, Abraham vient humblement devant Dieu avec beaucoup de crainte, de respect et d'humilité. Et enfin, frères et sœurs, sa prière se déroule selon la volonté de Dieu et non selon sa volonté. C'est très important. Sa prière se déroule, son intercession se déroule selon la volonté de Dieu. Il intercède pour Sodome parce qu'il connaissait Dieu et il priait selon la volonté de Dieu. Et savait aussi, non seulement il priait selon la volonté de Dieu, mais Abraham savait aussi ce que méritaient les méchants, les pécheurs. Il le savait. Que les pécheurs méritaient la colère de Dieu. Il le savait. Parce qu'il savait, il connaissait la volonté de Dieu. Il était persévérant dans sa prière. Et ayant reçu la promesse que Dieu épargnerait la ville de Sodome pour 50 justes, alors Abraham va un peu plus loin. Abraham continue. Il dit au Seigneur, 50, 45, 40, 30, 20 et enfin 10. Quand j'ai médité sur ce passage, je me suis dit, pourquoi Abraham s'est arrêté à 10? Franchement, ça m'a... J'ai béni le Seigneur parce que ça m'a fait raisonner, ça m'a fait réfléchir. Pourquoi il s'est arrêté à 10? Il pouvait continuer à 5, il pouvait continuer à 2, il pouvait continuer jusqu'à 1, non? Mais arrivé à 10, tac, fini. Pourquoi Abraham s'est-il arrêté à 10 justes? Pourquoi n'est-il pas allé plus loin? Parce que Dieu l'écoutait, hein? Dieu l'écoutait patiemment. Et Dieu acceptait toujours toutes ses propositions. Dieu disait oui, 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 oui. Tu sais, quand tu parles à quelqu'un, il te dit oui, tu continues. Oui, tu continues. Oui. Ça te donne même la force et le courage de continuer. Oui, oui, oui. Mais arrivé à 10, paf, c'est fini. Mais il pouvait continuer à 5. Mais Abraham ne l'a pas fait. Pourquoi? Peut-être qu'il y avait 10 justes à Sodome. C'est pourquoi il s'est arrêté à 10. Et qu'Abraham n'avait pas besoin d'aller plus loin. Mais s'il y avait 10 justes à Sodome et qu'Abraham s'est arrêté à 10, mais quand nous lisons au chapitre 19, la Bible nous dit que la ville de Sodome et Gomorre était toute, cette ville était détruite quand même. Et quand la ville de Sodome est détruite, seules 4 personnes étaient sauvées. Oh, il n'y avait pas 10. Donc Abraham ne pouvait pas s'arrêter à 10 quand même. Mais il n'y avait que 4 personnes qui étaient sauvées. Lot, sa femme et ses 2 filles. Alors, mais pourquoi Abraham s'est arrêté à 10? Et encore, sur les 4-là qui étaient sauvés, la femme de Lot va mourir en chemin en se retournant pour regarder la destruction de Sodome et Gomorre. Paf! Il est devenu une statue de sel. Elle meurt en chemin. Il restait 3. Et les 3-là, les filles de Lot vont enivrer leur père pour avoir une descendance avec lui. Alors, posons-nous cette question alors. Ils étaient 4. Lot, sa femme et ses 2 filles. Ils étaient-ils justes? Ils étaient-ils justes? Je ne pense pas. S'ils étaient justes, ils n'allaient pas faire ce qu'ils ont fait là, après. Vous êtes sauvés. Mais Abraham s'est arrêté à 10. Y avait-il un juste à Sodome? Et on peut même se poser cette question. Y a-t-il sur cette terre une seule personne qui soit juste, qui puisse apporter la grâce aux autres? Abraham n'a pas osé aller plus loin des 10 justes. Mais Dieu ira jusqu'au bout de cette logique. L'Éternel ira jusqu'au bout de cette logique. Et l'Éternel, notre Dieu, a achevé, a continué la prière d'Abraham. Abraham s'est arrêté à 10, mais Dieu a continué, a achevé la prière d'Abraham, qu'Abraham n'a pas pu achever, parce qu'il s'est arrêté à 10. Pour un seul juste, Dieu offrira la grâce à toute la terre pour un seul juste. Abraham s'est arrêté à 10, mais Dieu, pour un seul juste, sauvera toute l'humanité. Et ce juste s'appelle Jésus-Christ. Ce juste s'appelle Jésus-Christ. L'épître de 1 Jean, chapitre 2, le verset 1 et 2, nous dit ceci. 1 Jean, chapitre 1, le verset 2, nous dit ceci. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Jésus-Christ, il est qui? Le juste. Jésus-Christ, le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Abraham s'est arrêté à 10. Dieu a continué la prière d'Abraham. En Jésus-Christ. Pour conclure, frères et sœurs, en Jésus, nous savons que Dieu a achevé la prière d'Abraham. La prière qu'Abraham n'a pas osé faire jusqu'au bout. En Jésus, nous savons que Dieu va jusqu'au bout du pardon. En Jésus-Christ, Dieu va jusqu'au bout du pardon. Et les justes ne paieront pas pour les coupables. Mais les coupables auront la vie sauve grâce aux justes. Nous qui étions coupables, nous avons maintenant la vie sauve grâce à un seul juste, Jésus-Christ. Dieu veut sauver toute l'humanité par un seul juste, Jésus-Christ. N'oublions pas, frères et sœurs, le salaire du péché, c'est la mort. Mais celui dont les péchés ont été lavés n'a pas à craindre le juste jugement de Dieu. N'a pas à craindre cela. Ce passage nous rappelle que la prière est un temps de dialogue, comme ce fut entre Abraham et Dieu. La prière, c'est un temps de dialogue que nous avons avec Dieu. Mais nous devons aussi nous rappeler que la prière ne consiste pas à faire notre volonté, mais à faire la volonté de Dieu. Abraham s'est arrêté à 10, mais Dieu a fait sa volonté, il a sauvé 4. Je ne sais pas si vous voyez la différence. La volonté d'Abraham, 50, 40, 30, 20, 10, mais Dieu en a sauvé 4. Et la prière, quand nous prions, frères et sœurs, faisons attention. Nos prières ne consistent pas à faire notre volonté, mais à faire la volonté de Dieu. Et autre chose que nous voulons souligner aussi pour finir, lorsque nous regardons ce monde perdu, est-ce que nous prenons le temps nécessaire dans la crainte, dans l'humilité, pour implorer la miséricorde de l'Éternel, la miséricorde de Dieu, pour ceux qui sont encore loin du Seigneur? Est-ce que nous prenons ce temps-là? Comme l'a fait Abraham, il a pris le temps pour les habitants de Sodome, pour intercéder envers ses habitants. Est-ce que nous prenons ce temps-là? Nous avons à cœur ces soucis-là pour ceux qui sont encore loin de l'Éternel. Est-ce que nous prions pour eux? Frères et sœurs, que Dieu nous parle par sa parole ce matin et que son nom soit glorifié. Prions l'Éternel. Éternel, merci pour tes paroles qui est la vérité. Tu nous as parlé. Nous te demandons, Seigneur, que tu puisses nous faire grâce et que tu puisses nous donner la force de pouvoir aussi intercéder pour ceux qui sont encore loin de toi, dans nos familles, dans notre lieu de travail, dans notre quartier, Seigneur. Et merci, Seigneur, parce que tu es un Dieu juste. Et dans ta justice, Seigneur, tu ne détruiras pas les justes avec les coupables. Mais dans ton grand amour, nous qui étions coupables, nous avons la vie sauve grâce à ton Fils Jésus-Christ, notre bien-aimé, lui, le juste, en qui nous avons la vie éternelle. Au nom de Jésus. Amen.